With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche.
Octobre, le mois des feuilles multicolores. Octobre, le mois pour écouter Francis Cabrel avant de partir en balade du côté d'Astafort. Octobre, le mois des champignons, des noisettes et du potiron. Octobre, le mois où l'on se coule avec délices sous le plaid devant un bon feu de cheminée. Octobre, le mois des cracks. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et financière. Et aujourd'hui, alors que la bourse traverse sa plus grosse crise depuis plus de 10 ans, on va se demander si le pire n'est pas encore à venir.
C'était une très belle année pour la Bourse de Paris, en particulier pour l'indice phare, le CAC 40. Il a grimpé de 28,9% au cours de l'année, donc quasiment 30%. On n'avait jamais vu ça depuis 99, donc ça fait plus de 20 ans que la Bourse de Paris n'avait pas connu une telle envolée.
C'était les jours heureux à la Bourse de Paris. Dans le podcast La Story, Bastien Bouchaud était venu expliquer l'année euphorique des marchés financiers en 2021. L'indice CAC 40 venait même de battre un nouveau record historique à près de 7400 points. Et on se demandait alors ce qui pouvait faire capoter cette croissance effrénée. Il n'a malheureusement pas fallu attendre longtemps pour percevoir les failles de l'édifice.
L'effondrement des bourses depuis ce matin est à noter dans le monde entier. Quant au cours du baril de pétrole, il a dépassé la barre des 100 dollars, c'est du jamais vu depuis 7 ans.
La guerre en Ukraine aura été le premier avertissement pour les investisseurs. En quelques semaines, la bourse de Paris va retomber à près de 6000 points avant de se reprendre légèrement. Depuis, l'indice varie entre 5700 et 6700 points au gré des humeurs des marchés financiers. Ces derniers jours, elle est d'ailleurs plutôt morose, à l'image du S&P 500, l'indice phare de Wall Street, qui a perdu plus de 20% depuis le début de l'année. Comment les marchés actions ont-ils pu passer aussi vite du Capitole à la roche tarpéienne? Pour le savoir, j'ai demandé au monsieur Bourse des Échos, Bastien Bouchaud, de revenir au micro de La Story. Bonjour Bastien.
Bonjour Pierrick.
On va démarrer par un rapide état des lieux. 2021 avait été une année faste, une année record. 2022 s'annonce au contraire comme l'une des pires années depuis longtemps.
Après l'année record de 2021, cette fois-ci on s'oriente vers une très mauvaise année, l'un des pires millésimes depuis la crise financière, en fait la grande crise financière de 2008. On est à près de moins 20% sur la plupart des grands indices boursiers européens, un peu moins sur le CAC 40 qui résiste un peu mieux, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'on est sur une très mauvaise année en termes de performance boursière.
Il y a un indice peu connu du grand public, mais qui témoigne du choc pour les bourses mondiales. C'est l'indice MSCI ACWI qui regroupe l'ensemble des marchés boursiers mondiaux. Il a perdu près de 22% depuis le début de l'année, sa pire performance en plus de 20 ans. Au total, ce sont plus de 17 000 milliards de dollars qui sont partis en fumée. C'est énorme.
C'est pas forcément des pertes directes pour les investisseurs parce que ça prend sur des gains qui n'avaient pas été forcément réalisés. Mais c'est toujours un choc pour les épargnants qui ont investi sur le marché, en fait. Ils vont moins dépenser, ils vont moins acheter. Alors, en France, c'est un peu moins important parce que les Français épargnent moins sur les marchés que dans d'autres pays. Mais dans beaucoup de pays où notamment les systèmes de retraite dépendent de ça, ça peut avoir un impact assez fort sur la consommation, sur la confiance des ménages, donc sur l'activité économique en général, quoi.
Qu'est-ce qui a fait craquer la bourse?
Il y a eu des premiers signes, des premiers tremblements fin d'année dernière, en fait, avec la remontée des taux aux États-Unis et surtout le fait que la Fed a commencé à changer de discours. Donc la Banque Centrale Américaine, elle a commencé à indiquer que la hausse de l'inflation n'était pas que temporaire. elle était là pour durer et que du coup, il fallait qu'elle agisse et qu'elle agisse fort pour juguler la montée des prix, pour calmer en fait cette flambée des prix. Et depuis, elle est en train de faire du rattrapage en fait. Elle a commencé toute l'année dernière, elle expliquait que ça allait être temporaire et qu'elle avait pas besoin de remonter ses taux ou pas besoin de le faire très vite et pas besoin de le faire très fort. Et depuis le début de l'année, en fait, elle explique qu'il faut qu'elle aille toujours plus fort, toujours plus vite. Et ça a causé un vrai choc sur les marchés parce que ça faisait 10 ans qu'on s'était habitué à avoir des taux proches de zéro, voire négatifs en Europe. Donc ça a augmenté artificiellement, en fait, un peu les valorisations boursières. Donc là, il y a tout ça qui s'est dégonflé. Et en prime, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu l'invasion russe de l'Ukraine, on a eu la crise immobilière en Chine, la politique zéro Covid, les problèmes sur les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, la flambée du prix de l'énergie. Donc en fait, il y a ce problème très financier de hausse des taux d'une part, et de l'autre part, en fait, il y a plein de problèmes économiques plus ou moins liés les uns aux autres et qui touchent différents pays, différentes régions du monde qui arrivent aussi en même temps. Donc après l'année de tous les records en 2021 où tout s'était bien passé au même moment, là, on a un peu l'inverse où beaucoup de choses se passent mal à peu près en même temps.
Ça reste un critère qui est plus difficile à saisir, mais on voit qu'on a un environnement géopolitique qui reste très très compliqué et en particulier des tensions très très fortes en Europe avec la Russie, mais aussi peut-être j'allais dire surtout en Asie autour du détroit de Taïwan, autour de la rivalité entre la Chine et les États-Unis.
On vient d'entendre Wilfried Galland, invité avec vous en début d'année de ce podcast. Il est stratégiste pour Montpensier Finance et parmi les facteurs d'incertitude pour 2022, il citait justement la Russie, alors ça s'est avéré vrai, et la Chine et Taïwan. Au vu des dernières déclarations de Joe Biden, ça reste une menace systémique pour les marchés, mais l'invasion de l'Ukraine, ça a vraiment fait passer les marchés dans une nouvelle dimension?
Oui, enfin, ça a rappelé au marché, et pas qu'au marché d'ailleurs, à beaucoup de gens, que l'énergie c'était essentiel et que on n'était pas, la transition écologique et énergétique n'était pas encore faite et qu'on était encore dépendant des énergies fossiles pour notre économie, pour l'activité, et que cette dépendance, elle pouvait se retourner contre nous. Enfin, on a bien vu toutes les tensions créées par les problèmes d'approvisionnement en gaz russe, les prix de l'électricité qui ont explosé, les prix du gaz qui ont suivi le même mouvement. Enfin, ouais, c'est, il y a eu un vrai changement, une prise de conscience de la fragilité de l'économie européenne, et c'est surtout l'Europe qui a souffert de ce point de vue-là, en fait.
Hey, ça va pas fort, ça va pas bien, c'est pas trop terrible. Ce Noël risque d'être le dernier, et c'est pas plus mal. Hey!
Les marchés actions sont dans le dur. On a beaucoup parlé ces derniers mois de l'engouement des particuliers en France, mais surtout aux États-Unis pour les actions et pour des produits plus spéculatifs également, comme les options. Pour les particuliers aussi, le réveil est difficile?
Ouais, ça peut être un peu compliqué pour les particuliers qui sont revenus en bourse depuis la crise sanitaire. C'est surtout aux États-Unis où il y a eu un vrai engouement de jeunes boursicoteurs, donc des jeunes générations qui sont venues pour la première fois sur les marchés, qui ont profité un peu de nouvelles applications un peu plus ludiques et tout ça, qui ont pris des risques. Alors, pour le moment, ils n'ont pas encore complètement abandonné. Hein. Il y en a beaucoup qui continuent à jouer et à investir, mais c'est vrai que les chiffres dont on dispose montrent que leurs pertes sont assez importantes, en fait. Parce que comme ils ont plutôt tendance à investir sur des sociétés technologiques à forte croissance, qu'ils connaissent bien, qu'ils aiment beaucoup, c'est ces valeurs-là qui ont le plus souffert souvent en bourse depuis le début de l'année. Donc, ils se retrouvent avec des pertes quand même assez importantes. Alors après, ça dépend beaucoup de la manière dont ils ont investi. C'est une petite minorité qui a investi toutes leurs économies et qui peuvent se retrouver vraiment dans des situations très difficiles. Il y en a beaucoup qui ont investi quelques centaines de dollars, quelques milliers, sans que ça remette en cause leur épargne, leur situation financière. Donc, ça va dépendre vraiment beaucoup. Et en France, le risque, c'est que ça coupe l'élan, en fait, du regain d'intérêt des épargnants pour la bourse, parce que ça fait 10 ans que l'intérêt des Français pour la bourse était en recul. Et là, depuis 2 ans, il y a eu un rebond, un regain, mais on n'est pas du tout au même niveau qu'aux États-Unis encore, hein, donc, il s'agissait pas on peut pas vraiment comparer les deux encore, mais justement, est-ce que cette période un peu difficile aujourd'hui va remettre en cause ce regain d'intérêt pour la bourse? Bah, c'est un peu une question ouverte, ouais, aujourd'hui.
Faut pas mollir, pas se débrancher. Faut pas mollir, non, faut s'accrocher.
Faut pas mollir, mais certains particuliers ont fini par perdre patience dans ces marchés baissiers. Le seuil de tolérance à la perte est proche. Mais que dire du fonds souverain norvégien qui gère en bourse la rente pétrolière du pays? Son portefeuille boursier a fondu de 170 milliards de dollars sur le seul premier semestre. C'est un record depuis 2008. C'est plus que ce que le fonds avait gagné en 2021. Alors, il y a quand même un fait qui peut surprendre le profane, Bastien. L'indice CAC 40 perd près de 17% depuis le début de l'année. Et pourtant, jamais les entreprises françaises qui composent cet indice phare de la Bourse de Paris n'ont réalisé autant de bénéfices, c'est paradoxal?
Oui et non. Alors, c'est un peu toujours le même problème ou le même questionnement avec les marchés financiers, c'est qu'ils essayent d'anticiper toujours, de se projeter sur l'avenir. Donc, les résultats semestriels, effectivement, étaient extrêmement bons, ils étaient historiques et c'était une profitabilité record au sein du CAC 40. Enfin, on n'a jamais eu des marges aussi élevées au premier semestre. Mais c'était au premier semestre, c'était il y a 6 mois. Et depuis, beaucoup de choses se sont passées. Les prix de l'électricité, de l'énergie ont flambé, l'inflation a continué à augmenter, les taux d'intérêt ont augmenté, donc le loyer de l'argent a augmenté, il devient plus compliqué, ça coûte plus cher de s'endetter. Et on se doute bien que tous ces éléments-là vont mener à plus de difficultés économiques à l'avenir, en fait. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des économistes prédisent une récession dans les mois à venir en Europe. Donc, certes, les entreprises ont connu de très bons résultats, ont enregistré de très bons résultats. Et c'est pour ça aussi que la bourse, au final, se tient pas si mal. Hein. On est en baisse de moins de 20% en France. Avec tous les problèmes qu'on a évoqués cette année, en fait, au final, c'est pas si mal. Mais c'est vrai que c'est paradoxal d'avoir ça en même temps que des profits records et tout ça. Mais enfin, les marchés sont toujours à essayer de jouer le coup d'après, donc c'est pour ça.
Le mois d'octobre approche à grands pas, c'est le mois des cracks dans l'imagerie boursière. Malgré la baisse déjà enregistrée cette année, faut-il craindre de nouveau un octobre noir?
C'est sûr que c'est un risque, il n'y a vraiment pas de règle, quoi. Donc c'est possible parce qu'il y a plein de dangers à l'horizon et on s'attend en fait à ce que les marchés baissent encore avant de pouvoir remonter. Il y a un certain optimisme encore reflété par les marchés financiers dans le sens où les estimations de bénéfices pour l'année à venir sont... prennent pas encore en compte en fait la récession justement qui est attendue, qui est crainte dans les mois à venir. Donc beaucoup de stratégistes et de professionnels s'attendent à ce qu'il y ait une nouvelle baisse, en fait une nouvelle phase de baisse sur les marchés. Mais alors, est-ce que ce sera en octobre ou est-ce que ce sera en novembre voire plus tard, ça c'est impossible à prédire en fait, et timing marché c'est toujours un peu compliqué, mais effectivement c'est un risque, il y a une nouvelle vague de baisse, quoi. Ça c'est, on peut pas l'écarter en tout cas.
À la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 est désormais presque 20% en dessous de son record historique de janvier. Peu ou prou la performance enregistrée par les grandes actions américaines. La nervosité est de mise alors que se profile le mois d'octobre, un mois de sinistre réputation en bourse. Mais au fait, pour quelles raisons le mois d'octobre est-il redouté des investisseurs? C'est la question que j'ai posée à Christian Parizeau. Il est conseiller économique auprès de la société Aurel BGC.
Historiquement, il faut reconnaître qu'on a eu quand même des cracks, vraiment des chutes très violentes des marchés actions durant ce mois d'octobre. Ce qui fait que si vous faites des calculs purement statistiques, vous apercevez qu'on a clairement une sous-performance historiquement en moyenne sur le mois d'octobre des marchés actions. Maintenant, il faut faire très attention parce que naturellement, on dit en moyenne, mais ça veut dire qu'il y a des mois où on n'a pas du tout de sous-performance du mois d'octobre. Mais en tout cas, ça rend un peu les gens nerveux, c'est peut-être autoréalisateur parce qu'on se dit que le mois d'octobre est toujours compliqué. Et puis, c'est vrai qu'actuellement, en plus, on a une actualité qui n'est pas très favorable au marché actions et à la hausse des marchés actions.
Oui, on en parlait, ce cocktail récession plus inflation, c'est explosif pour les marchés?
C'est explosif pour plusieurs raisons. Alors d'une part, c'est explosif parce que ça force les banquiers centraux à agir. Et il y a un élément qui est assez étonnant aujourd'hui dans la situation que l'on observe, c'est se dire, est-ce que l'inflation ne va pas être complètement déconnectée de la récession? Parce que d'habitude, ce que l'on a, c'est si on a un ralentissement économique, si on a même une contraction de l'économie, ça laisse pas la capacité des entreprises à relever les prix. Et donc l'inflation devrait vraiment ralentir. L'autre élément, ce qu'on constate, qui est un peu étonnant aujourd'hui, c'est qu'on a l'emploi qui est complètement déconnecté de l'activité. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez des tensions sur le marché du travail, si vous avez un risque que les gens réclament des hausses de salaire, et donc ce qui fait vraiment peur aux banquiers centraux, c'est une boucle prix-salaire, et aujourd'hui, finalement, une récession, si l'emploi résiste, on n'est pas du tout dans ce profil d'atténuation des tensions inflationnistes sur le marché du travail. Et puis, globalement, on voit que les économies restent quand même relativement résilientes, mais il y a des facteurs de risque aujourd'hui qui pourraient faire brutalement chuter tout ça. Alors, ça induit un discours un peu ambigu des banquiers centraux, parce que eux, ce qu'ils regardent, ils regardent les risques inflationnistes, ils regardent le fait surtout que l'inflation s'installe. Et donc, quand ils regardent ces éléments-là, ils se disent finalement, je suis loin d'avoir vaincu l'inflation, je suis loin d'avoir réussi à atteindre mes objectifs. Et donc, ils disent, il y a peut-être une récession à venir, il y a peut-être un ralentissement, mais c'est pas grave, je reste droit dans mes bottes et je continue à monter les taux. Et ça, ça fait peur au marché, parce qu'aujourd'hui, on a non seulement le risque de baisse d'activité, mais en plus le risque de remontée assez forte des taux. Et puis, avec le scénario extrême que les banquiers centraux nous tuent la croissance mondiale, et puis tuent la croissance peut-être en Europe ou aux États-Unis.
Oui, ils sont assez exubérants, les résultats des entreprises françaises, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, pour une raison simple, eh bien c'est que la situation économique extrêmement particulière, la guerre en Ukraine avec le choc énergétique qui l'accompagne, la vague d'inflation, ce qui reste du Covid en Chine, etc., eh bien ça fait des gagnants et des perdants.
Le ralentissement de la croissance est en cours, c'est une certitude. On vient d'entendre Emmanuel Le Chypre commenter les résultats du CAC 40 au premier semestre sur BFM TV. C'était cet été, ça avait accompagné le rebond de la bourse, mais ça n'a pas duré. On va bientôt rentrer dans la période des résultats trimestriels aux États-Unis. Christian Parizeau, la résistance des bénéfices des entreprises sera clé?
Alors, c'est vrai que la partie bénéfice est aujourd'hui clé, mais je suis assez étonné quand même, parce qu'on a eu quand même des révisions à la baisse assez fortes du consensus des analystes, notamment sur les résultats du troisième trimestre des entreprises, et puis même sur les prochains trimestres. Et on peut pas dire que le marché soit resté très focalisé là-dessus. Alors c'est vrai que quand on voit, quand on interroge les investisseurs, globalement ils nous disent que le scénario de récession, ils l'anticipent. Pour vous donner juste une idée, une enquête récente disait que 92% des investisseurs dans le monde anticipaient une récession en Europe. Donc je dirais que il n'y aura pas forcément d'étonnement si on a une dégradation de l'économie européenne. Par contre, ce qui fait vraiment réagir les marchés aujourd'hui, c'est les mouvements de taux. Les mouvements de taux longs. Et donc, finalement, on a un marché qui est peut-être plus sensible aux indicateurs autour des banques centrales, au discours des banquiers centraux, que véritablement aux indicateurs économiques ou à tout élément qui pourrait induire des révisions à la baisse des bénéfices. Et donc, ça joue comment? Ça joue plutôt sur les multiples de valorisation. L'idée étant la suivante, c'est-à-dire que si les taux longs remontent, je suis moins incité à payer très cher la bourse, et donc ça pèse sur les multiples de valorisation. Mais c'est pas finalement l'évolution des bénéfices qui fait vraiment la tendance, c'est vraiment le comportement du marché obligataire, les anticipations de politique monétaire, et c'est ça qui est au cœur des mouvements de marché aujourd'hui. Et le fait qu'on a aujourd'hui des banquiers centraux qui maintiennent un discours très faucon, très, très négatif, en disant qu'ils vont poursuivre, voire peut-être même freiner l'économie, alors qu'on a encore beaucoup d'incertitudes géopolitiques, beaucoup d'incertitudes sur l'économie, c'est ça finalement qui pénalise le plus le marché, plus que peut-être le potentiel révision à la baisse des projections des entreprises. Mais encore une fois, ça s'est intégré. Je pense que c'est vraiment l'aspect politique monétaire qui inquiète.
Bénéfice max, l'opulence de bénéfices vue par les rappeurs Jaja et Dinaz. Les profits ne sont pas la préoccupation première des investisseurs, si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'ils ne sont pas non plus inquiets par la perspective d'une taxation des super profits dont on parle au niveau européen?
Alors les super profits, notamment dans l'énergie, est un peu pris en compte, parce qu'on voit aujourd'hui dans les secteurs qui sont les plus favorisés par les investisseurs, c'est le secteur énergétique qui est perçu comme un secteur un peu défensif dans la situation actuelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en bourse, en ce moment, on est en train de raisonner quels sont les secteurs qu'on joue un peu par défaut. Faut être honnête. Aujourd'hui, on joue la santé. C'est pas que on est très optimiste sur le secteur de la santé, mais c'est un secteur très défensif. On hésite à jouer les valeurs de croissance, vous savez, ces valeurs du luxe, etc., parce que ce sont des secteurs qui sont très sensibles au taux d'intérêt. Donc, encore une fois, c'est un aspect multiple de valorisation, parce que moi, économiste, je vous dirais qu'il faut jouer aujourd'hui dans les secteurs qui résistent le mieux. Par exemple, il faudrait jouer les valeurs technologiques, mais on voit que cet effet taux, quand même, bride complètement la valorisation de ce secteur. Donc, finalement, on a un choix un peu par défaut, on joue un peu, quand on voit dans les secteurs top, préféré par les investisseurs, c'est beaucoup l'énergie, la santé. Donc on reste sur des idées très défensives face à quand même une très très faible visibilité, tant du côté des politiques monétaires que de l'économie.
Et selon la dernière enquête mensuelle de Bank of America, les investisseurs ont rarement été aussi pessimistes, notamment sur la croissance économique et sur les résultats des entreprises. Qu'est-ce qui pourrait ramener la confiance en bourse ?
Alors comme toujours en bourse, faut toujours raisonner à quel moment on va invalider un scénario. Et je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle que tous les investisseurs soient très pessimistes, parce que ça veut dire qu'on a quand même intégré pas mal de mauvaises nouvelles. Ça serait toujours dangereux qu'on aille véritablement un chiffre très mauvais et économique, que ça soit pas intégré. Ça explique en grande partie pourquoi les investisseurs réagissent assez peu aux indicateurs économiques, hormis l'inflation. Et aujourd'hui, ce qui pourrait faire redonner un peu d'élan à la bourse, c'est paradoxal de dire ça, mais ce serait que les banquiers centraux, voyant la détérioration de l'économie, qu'ils estiment, voire du marché du travail, hein, si on a de nouveau le taux de chômage qui remonte. Alors, je sais que c'est pas très sympathique de dire ça, mais c'est vrai que pour eux, si le taux de chômage, il y a un banquier central américain, hein, Monsieur Wallers, qui nous a dit que si le taux de chômage aux États-Unis revient à 5%, ils réfléchiront avant de continuer à monter les taux, hein. Donc ça veut dire que en dessous de 5%, avec un taux de chômage historiquement bas, ils n'ont aucune hésitation à remonter les taux. Mais si le marché voit une dégradation du marché du travail, que le taux de chômage remonte, qu'ils constatent que derrière, quand même, le ralentissement de l'économie va véritablement peser sur l'inflation, ce qui semble être mon scénario privilégié, mais enfin, pour l'instant, c'est pas ce que nous disent les banquiers centraux. Et donc ça assouplirait leur discours, et je pense que là, à ce moment-là, le marché aurait un petit potentiel de hausse. Mais c'est vrai que c'est paradoxal de dire ça, parce que aujourd'hui on n'a pas du tout de scénario rose, on n'est que sur des scénarios gris ou noirs. Donc si c'est noir, ça peut encore baisser, si c'est gris, ça montera. Mais c'est quand même toujours un peu embêtant de dire qu'on a du potentiel de hausse parce que le scénario économique est seulement gris et pas noir.
Je veux en finir avec tout ça. Je vous jure. Je suis fatigué, patron.
Il y a quelques jours, Ray Dalio, c'est le fondateur du hedge fund Bridgewater, le plus grand fonds spéculatif du monde, disait qu'il tablait sur une nouvelle chute de 20% de Wall Street, compte tenu des risques de récession aux États-Unis et de la politique de la Réserve fédérale. Alors vous le disiez, il faut faire attention aux prophéties autoréalisatrices en bourse. Comment est-ce que vous voyez ce mois d'octobre et plus largement la fin d'année ?
Alors, je ne vais pas prédire un crack. Je vais pas dire que d'un seul coup, on va avoir les indices qui vont partir à la cave. Mais je pense que effectivement, il y a aujourd'hui quand même pas mal d'incertitudes qui sont dans les marchés. Mais alors, première chose, ce qui donnera la tendance, c'est quand même l'évolution des taux longs. Et moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, si vous avez un 10 ans américain qui est à 3,50, 3,60, c'est vraiment un maximum auquel on peut aller, parce que des investisseurs vont se dire, investir dans de la dette américaine jugée sans risque, à 3,50, 3,60, ça commence à devenir intéressant. Donc ça, c'est un élément quand même qui limite la dégradation de la bourse, parce que si on voit que les taux longs n'ont pas vraiment de potentiel de très forte hausse, ça va quand même un petit peu calmer les anticipations. Je crois aussi que les banquiers centraux, pour l'instant, ils tapent parce qu'ils ont vraiment une inquiétude vis-à-vis de l'inflation. Mais je pense que la dégradation de l'économie, elle va être là, elle va être forte. Et donc, on pourrait avoir un effet quand même qui va quand même un petit peu calmer leur discours. Et surtout, ils vont pas poursuivre la remontée des taux directeurs sur le rythme qu'ils ont fait dernièrement. Et on commence à voir, on l'a vu dans d'autres pays, pas encore aux États-Unis, en Europe, mais on voit au Canada, on voit en Australie, il y a quand même des vrais signaux qui commencent à apparaître, qui montrent que quand même l'accumulation de la hausse des taux plus du ralentissement économique commence à réellement limiter les risques inflationnistes. On a les deux enquêtes qui montrent aussi que l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, la baisse des coûts des entreprises au niveau des matières premières. Donc tout ça me fait dire qu'on va avoir quand même des éléments un peu de soutien au marché. Mais c'est vrai que sur ce mois de septembre, pour l'instant, on a tout ce qui est le plus mauvais, puisqu'on a les mauvaises nouvelles géopolitiques, on a les mauvaises nouvelles sur les banquiers centraux et on a les mauvaises nouvelles économiques. Donc ça laisse la place à une surréaction du marché. Mais encore une fois, on le voit depuis le début, hein, ce qui est vraiment market mover, ce sont les taux, et c'est pas du tout véritablement les bénéfices des entreprises ou les indicateurs économiques. Et donc on voit, dès qu'il y a trop de craintes sur les marchés, dès qu'on a peur, on voit que la hausse des taux longs est quand même très vite calmée, on voit les taux qui rebaissent un petit peu, et ça maintient quand même la valorisation de la bourse. Donc moi, je parierais pas forcément sur un scénario très très noir, beaucoup de volatilité, ça c'est évident, on va avoir un quatrième trimestre encore assez incertain, mais pas forcément de krach boursier à attendre, parce qu'encore une fois, on n'est pas sur des exagérations en termes de valorisation, on n'est pas non plus derrière sur des investisseurs qui sont euphoriques, qui pourraient d'un seul coup devenir pessimistes. Là, ils sont pessimistes, donc ils sont sous Prozac, hein. Ils peuvent pas être plus pessimique. Donc moi je pense que c'est difficile aujourd'hui quand tout le monde est négatif d'aller beaucoup plus loin. C'est quand finalement il y a un retournement de situation, quand on est véritablement sur quelque chose qu'on n'a pas prévu. Alors seul petit bémol que je mettrais, mais c'est un peu trop tôt aujourd'hui pour l'avoir, c'est si véritablement il y a une crise majeure énergétique en Europe qui se traduit par l'arrêt complet d'activité économique. Hein, on le voit, il y a quelques entreprises qui commencent à communiquer là-dessus. S'il y a vraiment une pénurie de gaz, si on a une flambée des prix de l'électricité, on pourrait avoir un arrêt d'une partie de l'économie et notamment de tous ceux qui sont très dépendants de l'énergie dans leurs coûts de production. Mais encore une fois, on verra cet hiver et puis on va espérer que l'hiver soit clément. Alors aujourd'hui, il faut regarder les prévisions économiques des analyses des économistes, mais aussi des météorologues, parce que ça jouera peut-être pour la bourse. Mais en tout cas, voilà, à part ce scénario-là, mais ça ne sera pas sur le mois de septembre. C'est un peu trop tôt pour jouer ça pour le moment.
Merci Christian Parizeau, conseiller économique auprès de la société Aurel BGC. Et merci Bastien Bouchaud, journaliste au service marché des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.